Bonjour à toutes et à tous. Également, bonjour à ceux qui sont connectés et qui sont avec nous. On est reconnaissant envers le Seigneur qu'il ne te soit rien arrivé de plus grave. Patrice, merci encore pour ton témoignage. Dites-moi, est-ce que vous aimez les success stories? Les histoires de succès, comme on dit en français. Aujourd'hui, nous pouvons regarder de courtes vidéos sur le parcours de telle ou telle personnalité qui passe de l'anonymat à la célébrité, qui a un talent et qui enchaîne les succès. Et je l'avoue, j'aime regarder les histoires de succès. Est-ce qu'il y a en moi une part d'envie, d'admiration, voire de jalousie? Peut-être. Et pourtant, en découvrant ces parcours de vie réels, je repense à la phrase de Jésus. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et je n'ai pas vu de vidéo qui se termine par cette question-là. Suivre Jésus, c'est le thème que nous développons depuis deux dimanches en parcourant chaque évangile. Chez Jean, nous avons vu que le chrétien est appelé à suivre Jésus, le ressuscité, tout au long de sa vie. Chez Luc, nous avons vu la semaine dernière que l'engagement de suivre Jésus est à la fois coûteux, prioritaire, parce que Jésus passe avant toute autre chose, et entier. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'évangile de Marc. Et avant de lire le texte de Marc 8, un mot sur le contexte. Dans une première partie de cet évangile, qui recouvre les 8 premiers chapitres, Marc nous raconte comment Jésus a démarré son ministère en Galilée, les miracles qu'il a accomplis. Jésus est puissant, plus fort que les démons, plus fort que la maladie, plus fort que la mort. Puis vient la confession de Pierre, qui dit à Jésus, « Tu es le Messie, il le reconnaît. » Et nous sommes au chapitre 8. Et à partir de ce moment, précisément, Jésus annonce à ses disciples qu'il va souffrir, qu'il va mourir et ressusciter 3 jours après. Les disciples ne comprennent pas bien ces annonces de la part de Jésus. Cela ne cadre pas avec leur schéma de pensée. Comment leur maître, plein de puissance, pourrait-il souffrir et même passer par la mort? Comment est-ce possible, après tous les miracles qu'ils ont vus? Pourtant, le Messie doit souffrir. Et c'est dans le contexte de ces annonces que Jésus précise ce que veut dire être son disciple. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture du texte d'aujourd'hui. Dans Marc chapitre 8, les versets 34 à 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus interpelle la foule. Que signifie suivre le Messie qui va souffrir et mourir sur la croix? N'est-ce pas suivre le même chemin que lui? Le Messie doit souffrir. Ceux qui suivent ce Messie doivent être prêts à souffrir aussi. Et en cela, le message de cet après-midi n'est pas un message facile, parce qu'il est question de souffrance. Suivre Jésus, c'est forcément renoncer à soi et porter sa croix dans un monde hostile. c'est forcément renoncer à soi et porter sa croix dans un monde hostile. Et je vous propose de voir ce que Jésus nous demande ici, dans ce texte. D'abord, de renoncer à soi, mais pas à son âme. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus ? Eh bien, nous avons la définition. C'est quelqu'un qui renonce à lui-même. C'est fort comme expression, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui renonce à lui-même. Est-ce que c'est l'image que nous avons des chrétiens ? Est-ce que cela correspond à qui nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que, Yaki, tu te considères comme étant quelqu'un qui a renoncé à toi-même ? Est-ce que, Juliette, tu te considères comme étant quelqu'un qui a renoncé à toi-même ? Et je pourrais citer chacun d'entre vous. Est-ce que vous vous considérez comme étant une personne qui a renoncé à soi-même ? Jésus nous demande-t-il de renoncer à notre personnalité ? Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Mais regardons plutôt ce qu'il dit ensuite. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il semble que celui qui renonce à lui-même est prêt aussi à renoncer à sa vie. Et les auditeurs de l'époque ont dû se dire, quel est cet enseignement nouveau où il s'agit de suivre un maître et cela implique de perdre sa vie. Aucun maître ne demanderait cela de ses disciples. Et dans ce monde, si nous sommes prêts à donner notre vie pour une cause ou pour une autre, cela signifie que cette cause a vraiment une valeur particulière. Vous êtes d'accord avec moi ? Si nous sommes prêts à mourir pour une cause, c'est que cette cause a une valeur particulière. Et celui qui renonce à lui-même pour suivre Jésus est prêt, ultimement, à y laisser sa vie, si c'était nécessaire. À la conversion, c'est le choix que beaucoup d'entre nous ont fait, de ne pas mener une existence pour notre gloire, pour notre profit, pour nos intérêts. Mais depuis notre conversion, nous avons commencé à renoncer à nous-mêmes. Nous avons commencé à renoncer à nos intérêts. Et régulièrement, nous avons besoin de renouveler cette démarche. Parce que nous luttons. Nous luttons contre nos égoïsmes, notre égoïsme. Nous luttons contre notre égocentrisme, contre notre narcissisme. Toujours moi, moi, et d'abord moi. Pourtant, Jésus a tellement plus de valeur que tout ce que nous pouvons désirer sur cette terre. Jésus a tellement plus de valeur que la vie que beaucoup cherchent à construire en vain. Dans la Bible d'études du semeur, j'ai trouvé cette formule bien dite. La décision ultime que le disciple doit être prêt à prendre, la décision ultime que le disciple doit être prêt à prendre est de renoncer à lui-même plutôt que de renoncer au Christ. Je trouve que c'est bien dit. Renoncer à soi-même plutôt que de renoncer au Christ. Renoncer à soi, oui, mais pas à son âme. À quoi ressemble quelqu'un qui renonce à son âme ? Nous avons tous entendu parler de personnes qui ont consacré toute leur vie et leur énergie à bâtir un empire, à se faire un nom, à amasser des richesses, à chercher la gloire et la réussite, sans se préoccuper de leur sort éternel. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui renonce à son âme. Et Jésus pose deux questions rhétoriques. Verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Sous-entendu, à rien, ça ne servira à rien. Deuxième question rhétorique, que donnera un homme en échange de son âme ? Et la réponse est rien. Rien ne peut être échangeable avec l'âme d'une personne. Et c'est assez difficile d'expliquer ce qu'est l'âme. C'est ce qui fait partie de nous, de notre intérieur. C'est ce qui continuera d'exister même après la mort physique. L'âme d'une personne a plus de valeur que le monde entier. Et Jésus pose ces deux questions pour montrer clairement à la foule que ce n'est pas le bon chemin à suivre. Gagner le monde entier, ce n'est que pour cette vie et après. Si l'être humain ne se préoccupe pas de son sort éternel dans cette vie terrestre, qui pourra le sauver encore ? C'est pourquoi Jésus appelle la foule, Jésus appelle ses disciples à le suivre, car c'est lui, le Fils de Dieu, qui mènera les hommes et les femmes au salut, à la vie éternelle. Il y a 2 semaines, je disais déjà que suivre Jésus est une question de vie ou de mort. Ne pas suivre Jésus, ne pas renoncer à soi-même, chercher à tout prix à gagner ce monde, c'est perdre son âme. C'est aller tout droit vers l'enfer. C'est être éternellement séparé de Dieu. Et ce sera mérité parce qu'on n'a pas voulu de lui dans cette vie-ci. Mais aujourd'hui encore, il y a la possibilité de choisir Jésus tant que tu vis et si tu ne l'as pas encore fait. Pour suivre Jésus, nous n'avons pas une autre manière de vivre que de renoncer à nous-mêmes. Nous n'avons pas d'autre alternative. Nous vivons pour quelqu'un qui a infiniment plus de valeur que notre carrière, que nos projets, que toutes nos autres relations. C'est-à-dire Jésus, qui a infiniment plus de valeur que tout le reste. Dans son livre « La responsabilité du chrétien face à la pauvreté », le professeur Tim Chester place les chrétiens occidentaux face à leurs responsabilités. Dans ce livre, il nous pousse à questionner nos choix de vie dans notre monde surdéveloppé. Renoncer à nous-mêmes, c'est peut-être renoncer à un certain style de vie. Au rêve occidental, d'avoir à tout prix un bon travail, d'avoir une maison, d'acheter une maison et d'avoir encore du temps pour les loisirs et les vacances. Ce rêve occidental tourné vers l'individu se heurte inévitablement à l'idée de renoncer à soi-même. Il y a opposition entre les deux. Ce rêve occidental se heurte au fait de renoncer à faire de soi la priorité des priorités. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de sa santé. Mais quel style de vie désirons-nous en tant que chrétiens ? Quel style de vie désirons-nous en tant que chrétiens ? Il y a un choix à faire, et je vous le dis d'emblée, ce n'est pas de poursuivre le rêve occidental. Visons plutôt ce que Tim Chester dirait des existences entièrement consacrées à suivre le Christ, sans avoir à connaître la dictature d'un style de vie à entretenir. Nous serons satisfaits de n'importe quel niveau social, pourvu qu'il nous permette de servir Dieu et de chercher premièrement son royaume. C'est ça, le style de vie que nous pouvons viser. Sans avoir à connaître la dictature d'un style de vie à entretenir. Dans ta situation, vous avez chacun, chacune, une situation différente. Dans ta situation, que signifie renoncer à toi-même ? Souvent, cela se mesure au temps que tu passes à une certaine activité. Que dois-tu sacrifier ? À quoi dois-tu renoncer pour être plus disponible pour le royaume de Dieu. Où est-ce que tu peux gagner du temps pour avoir plus de temps pour tes relations, pour encourager celles et ceux qui t'entourent, pour les encourager à quoi ? À suivre Jésus. C'est ce qu'on appelle faire des disciples. Pour les encourager, eux aussi, à renoncer à eux-mêmes, mais pas à leurs âmes. Ne dépense pas ta vie à gagner ce monde, à te faire un nom, mais dépense ta vie pour le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Suivre Jésus, c'est forcément renoncer à soi-même. C'est mourir à soi-même. Il n'y a pas d'alternative. Et Jésus précise que c'est aussi porter sa croix. Renoncer à soi-même et porter sa croix sont des expressions qui expriment le sacrifice. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix à l'époque de Jésus, sous la domination romaine, c'était ce qu'un condamné à mort devait faire jusqu'au lieu de sa crucifixion. Et les auditeurs de Jésus, à son époque, avaient peut-être l'image de ces crucifiés le long des routes. C'était une pratique assez courante. Et bien sûr, vous le savez également, c'est ce que Jésus a lui-même dû faire, porter sa croix, avant qu'un certain Simon de Cyrène soit forcé de lui venir en aide. Jésus a porté sa croix, et comme nous l'avons aussi chanté précédemment, a été cloué dessus, comme un vulgaire criminel, qu'il n'était pas. Souvenez-vous que Jésus avait annoncé, juste avant le verset 34, qu'il devait souffrir et mourir. Il est le Messie qui devait souffrir et mourir. C'est le chemin qu'il est, à ce moment du récit, en train d'emprunter. Il est en route vers Jérusalem pour le salut de l'humanité. Et si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix. Autrement dit, qu'il soit prêt à mourir. Et les versets suivants que nous avons déjà lus vont dans ce sens. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nous l'avons déjà vu dimanche dernier, suivre Jésus est un engagement coûteux qui peut coûter jusqu'à la vie physique. Et Marc adresse sans doute son évangile à des chrétiens d'origine païenne qui vivaient à Rome et qui voyaient probablement leurs frères et sœurs perdre littéralement leur vie à cause de leur foi en Jésus. Marc s'adresse à eux, et nous-mêmes, à notre époque, si nous sommes informés de ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe en Inde, en Syrie, en Iran, au Soudan, et bien d'autres pays que vous retrouvez sur cette carte de l'index mondial de persécution, nous savons que des chrétiens, des chrétiennes, meurent parce qu'ils vivent pour Jésus. Et pourtant, dans notre passage, Jésus déclare « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Il ne sera pas mort pour rien. Certes, il perd sa vie physique, mais non la vie éternelle. Et à la résurrection finale, il aura un corps glorifié, un corps immortel. De la même manière, des missionnaires aussi perdent la vie sur le terrain, alors qu'ils ont consacré leur temps à partager la bonne nouvelle. Je pense à ce missionnaire, Jim Elliot, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Jim Elliot était de ceux-là. Un missionnaire du XXe siècle, doublement connu, d'abord pour avoir dit « Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Ce qu'il ne peut pas garder, par exemple, c'est sa propre vie. Mais ce qu'il ne peut pas perdre, c'est la vie éternelle. Et je disais doublement connu pour cette citation, mais aussi connu pour avoir essayé, avec 4 autres missionnaires, d'approcher des Indiens d'Équateur, dans l'optique de leur apporter la bonne nouvelle. Mais le 8 janvier 1956, les 5 missionnaires ont été retrouvés sans vie, tués par ces Indiens qu'ils voulaient évangéliser. Et pour nous, qui sommes plutôt à l'abri de tous ces dangers, comment vivons-nous le fait de porter notre croix dans notre société? Cela va sans doute jusqu'à supporter le rejet, la moquerie, les critiques des autres. Aux yeux de certains, les chrétiens ne sont rien de moins que des illuminés, des fous. Après tout, pourquoi perdre son temps à aller chaque dimanche à l'église? Pourquoi consacrer sa vie à lire, à relire encore la Bible? Pourquoi prier et chanter un Dieu que nous ne voyons même pas? Pourtant, chaque disciple dans cette salle, et chaque disciple aussi connecté avec nous, chaque disciple peut témoigner qu'il ou elle a fait l'extraordinaire rencontre du ressuscité. Notre Seigneur est vivant, ce n'est pas une blague, ni un délire collectif. Mais dans un monde hostile à Dieu, nous sommes prêts à souffrir, et dois-je ajouter, jusqu'à la mort. Oui, nous portons notre croix. Écoutez encore l'expérience de l'apôtre Paul et de ceux qui souffrent avec lui. Il décrit cela dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. » Et un peu plus loin, au verset 16-17, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » La souffrance à cause de Jésus et à cause de son évangile fait partie de l'expérience de tout chrétien, de toute chrétienne. Est-ce que d'ailleurs, au passage, nous rappelons cela lorsque nous sommes amenés à accompagner des chrétiens fraîchement convertis? Est-ce que nous leur disons « Mais tu sais que tu vas souffrir ?» Ça fait partie du discipulat aussi, de dire ce genre de choses, de leur rappeler en tout cas. Et sans doute, comme le suggère un commentateur, Marc, l'auteur de l'Évangile, en mentionnant ces paroles de Jésus, veut encourager ses frères et sœurs de Rome à considérer la persécution comme quelque chose de normal. L'apôtre Pierre aussi écrit à des chrétiens éprouvés, et il leur dit dans sa première épître, au chapitre 4, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » C'est une manière de parler des persécutions. Vous êtes heureux si vous êtes insulté, parce que l'Esprit de gloire repose sur vous. Porter sa croix, c'est suivre le même chemin que Jésus. Jésus, dont la mort ne nous évite pas la souffrance ici-bas, dont la mort ne nous évite pas en particulier la souffrance à cause de son nom. Par contre, sa mort et sa résurrection évitent à tous ceux qui placent leur confiance en lui le châtiment éternel. Oui, porter sa croix, supporter le rejet, l'incompréhension, la moquerie, peut-être même le harcèlement de la part des autres, tout cela n'est pas facile à vivre. Pourtant, nous pouvons croire le témoignage des apôtres que je viens de lire. Nous pouvons croire leur témoignage parce qu'eux ont souffert pour Jésus et pour l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement ? Qu'il vaut mieux supporter sur cette terre cette souffrance temporaire pour Christ. Et je parle bien de cette souffrance en particulier, de souffrir pour Christ. Parce que ce qui nous attend dans l'éternité est tout simplement incomparable. Un bonheur sans fin dans la présence de notre glorieux Sauveur. Voilà ce qui nous attend. Et Jésus ne demande pas à ses disciples d'emprunter un chemin qu'il ne va pas lui-même emprunter. Il l'a emprunté. Il sait ce qu'est souffrir injustement, d'être insulté, d'être moqué, d'être tué. Il a porté la croix à cause de nos péchés. Il a été cloué sur la croix, recevant la punition que nous méritions, afin que nous ne soyons pas condamnés par Dieu, afin que nous soyons justifiés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Suivre Jésus, c'est donc forcément renoncer à soi-même. Et c'est porter sa croix. Jésus lui-même l'a fait. Mais il nous faut encore évoquer une dernière considération. C'est que suivre Jésus, c'est aussi ne pas avoir honte de lui. Suivre Jésus, c'est aussi ne pas avoir honte de lui. Puisqu'il dit, au verset 38, « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est un peu le test ultime du disciple. Si quelqu'un a honte de Jésus, de ses paroles, c'est-à-dire de son enseignement, si quelqu'un vit comme s'il ne connaissait pas Jésus, le Seigneur le traitera de la même manière. Il dira au jour où il reviendra, « Je ne te connais pas. » Avoir honte de quelqu'un, c'est faire semblant de ne pas le connaître. Pierre, le disciple de Jésus, a eu honte de son maître, au point de le renier 3 fois. Et moi aussi. Moi aussi, j'ai déjà eu honte. Moi aussi, je n'ai pas osé dire que j'étais chrétien, quand j'en avais l'occasion. Et à ce moment précis, j'ai eu honte de Jésus et de ses paroles. C'est grave. C'est suffisamment grave pour que celui qui persévère dans cette attitude soit à son tour renié par le Seigneur. C'est grave d'avoir honte de Jésus. Et finalement, pour cette personne qui aura persévéré dans cette attitude, cela veut dire que son engagement n'était pas si sérieux. Pour quelle raison pouvons-nous avoir honte de Jésus ? Parce que nous avons peur de la réaction négative des autres ? Peur que nos amis se moquent de nous ? Peur que notre famille nous rejette ? Jésus a qualifié les gens de son temps de génération adultère et pécheresse. Donc, des personnes qui n'ont pas de respect pour Dieu, qui aiment plus leur personne que Dieu. Et si quelqu'un a honte de Jésus dans ce contexte mauvais, il n'est clairement pas un disciple de Jésus. Heureusement, nous avons encore la possibilité de demander pardon au Seigneur pour ces fois où nous avons eu honte de lui devant les autres. Heureusement, nous avons encore la possibilité de nous engager, au contraire, à être fiers de lui appartenir. Et je crois que nous sommes nombreux à devoir travailler sur cet aspect de la honte, afin d'assumer pleinement que nous connaissons Jésus, que nous l'aimons devant les membres de notre famille, nos amis, nos camarades, nos collègues, nos voisins, et tous ceux que nous croisons ici ou là. Vous connaissez sans doute ce verset de l'apôtre Paul qui dit aux Romains, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi avoir honte du message qui dit ce que Jésus a fait pour le salut des hommes? Pourquoi avoir honte de quelque chose de bon pour l'humanité? Pourquoi avoir honte de celui qui fait le bien, qui a fait le bien par excellence? Comment se fait-il que nous, et je m'inclus dans ce « nous », comment se fait-il que nous ayons tant de mal à nous détacher de cette honte? Sans doute, et c'est en lien avec tout ce qu'on a dit précédemment, sans doute parce que nous n'avons pas entièrement renoncé à nous-mêmes. Notre image et ce que les autres pensent de nous compte plus que ce que le Seigneur pense de nous. Lorsque le lundi, on vous pose la question « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Il y a une fraction de seconde où on peut se taire ou parler. « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Vais-je lui dire que j'étais à l'église parce que je suis chrétien ? Est-ce que ça va changer ce qu'il pense de moi ? Et je l'ai vécu, ça. Le changement de regard. Ah, tu es chrétien ? Ok. Nous avons besoin de travailler dessus avec l'aide du Seigneur. Nous devons lutter contre cette honte. Nous devons lutter contre cette honte qui n'a pas lieu d'être. Parce que nous avons honte de quelque chose qui est bon. Nous sommes faibles dans ce domaine, selon notre arrière-plan, selon notre histoire, selon notre expérience. Et nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pour vous équiper, pour vous conduire à ne pas avoir honte. Et c'est sûr qu'avec nos propres ressources, nous allons droit vers l'échec. Mais en priant, en demandant à Dieu du courage au quotidien, en lisant sa parole qui nous convainc encore une fois que nous n'avons pas à avoir honte, nous dépasserons ce complexe de la honte. Mais nous avons besoin de Dieu pour cela. Écoutez encore ces exhortations de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est Dieu qui nous donnera la force de ne pas avoir honte et de supporter le poids de la croix. Il connaît nos faiblesses, mais est-ce que nous, nous connaissons sa puissance? Et Jésus dans tout ça, il aurait toutes les raisons d'avoir honte de nous. Honte de nous qui sommes pécheurs, si faibles, si peu fiables, si souvent infidèles. Et pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rapporte la chose suivante. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi, et on parle de Jésus, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Jésus, lui qui est Dieu, s'est abaissé pour revêtir notre humanité. Et de cette manière-là, il ne pouvait pas être plus proche de nous. Et en mourant à la croix pour nos péchés, en nous permettant d'être pardonnés pour ce que nous avions fait de mal et aussi pour ce que nous ferons de mal, Jésus nous fait entrer dans la famille de Dieu. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Nous partageons avec Jésus la même humanité, seulement lui est sans péché. Et nous ne pouvons tout simplement pas avoir honte d'un tel sauveur. Au contraire, soyons fiers et disons comme l'apôtre Paul, qui est écrit aux Galates au chapitre 6, versets 14 et 15. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. L'apôtre Paul dit « Jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, toujours tenté par les success stories, on ne fera sans doute pas de vidéo sur notre vie, mais qu'importe, nous avons déjà commencé à renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Et récapitulons en quoi cela consiste. C'est d'abord renoncer à soi-même parce que Jésus a plus de valeur que toute autre chose dans notre vie. C'est porter sa croix, et cela nous rappelle que la souffrance à cause de Jésus et à cause de l'Évangile est le lot commun des disciples de Jésus, à différents degrés. Mais c'est le lot commun. Et enfin, cela nous rappelle aussi de ne pas avoir honte, de ne pas avoir honte de notre appartenance à Jésus, mais au contraire, d'assumer pleinement notre identité de disciple du Christ. Et nous pouvons dire que celui ou celle qui ne renonce pas à lui-même ou à elle-même, eh bien, cette personne-là a cessé de suivre Jésus, du moins temporairement. Heureusement pour nous, le Seigneur est allé jusqu'au bout, renonçant à ses privilèges pour pouvoir nous sauver. Et c'est à lui que revient la louange. Et j'aimerais simplement terminer par ce texte de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. C'est à lui que revient la louange. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, nous avons entendu ta parole et c'est extrêmement clair. Nous ne pouvons pas nous défiler, nous ne pouvons que répondre à ce que tu viens de nous dire. Et effectivement, suivre Jésus ou ne pas le suivre, c'est décisif. Et c'est encore une décision que certaines peuvent prendre. Mais pour tous ceux d'entre nous, toutes celles d'entre nous qui suivent, qui ont déjà commencé à suivre Jésus, qui ont déjà commencé à faire ce bout de chemin, à porter leur croix, eh bien nous voulons encore te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons encore besoin que tu nous fortifies chaque jour pour que nous puissions porter fièrement le témoignage devant le monde hostile, hostile à toi. Et nous ne doutons pas qu'à travers ce témoignage-là, tu as le pouvoir de changer ceux qui sont hostiles en amis, en personnes qui se tournent vers toi. Et nous voulons te glorifier pour cela, parce que tu continues à sauver des vies. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai, ça nous coûte forcément d'être chrétien, mais c'est incomparable face à ce qui nous attend, face à ce que tu nous prépares, au poids éternel de gloire qui nous attend. Et dans la présence, dans ta présence, Oui, que tu sois loué, et simplement loué pour qui tu es et pour ce que tu as accompli pour notre salut. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.